La question de Yoël.
Alors, on voit que David Améler, quand il y a eu la guerre, il est sorti en guerre. Tous les plus grands tzadikim, ils sont sortis en guerre. Et à la fin des temps aussi, quand il y aura la guerre, il y a marqué que les grands tzadikim aussi, ils seront plusieurs à sortir.
Je ne connais pas ce marqué là dont tu parles.
Si, il y a marqué dans la Souka là-bas. Il y a marqué que quand il y aura la guerre dans Mashiach, Souka Nunbet, il y a marqué que quand il y aura la guerre avec Mashiach, aux côtés il y aura David Améler et il y aura
Adam Arishan. Non, pas la guerre. Mashiach, il arrive.
Mashiach,
il arrive avec huit Yaakov, Shem, Akitzedek, etc. D'accord ? Mais pas la guerre. Au contraire, Mashiach, le baron Mashiach, lui, va faire la guerre avec sa bouche.
Okay, c'est marqué. Alors, dans l'ancien temps.
Ok, attends, je réponds. J'ai juste pour faire le petit dessin, pour que je réponde à ta question. Donc, Yeshayahu, lui, dans Yeshayahu, c'est marqué le prophète Yeshayahu, dans chapitre 11, écrit là-bas sur le Mashiach, il dit Beruach Sfatav Yamit Rasha. Par le souffle de ses lèvres, il tuera le mécréant. Donc lui fera la guerre avec la bouche. D'où sa force. Un mot. Voilà, comme il fait l'autre jour. Crève et tout le monde crève. D'accord ? Ça, c'est Mashiach. Maintenant, nous, on n'est pas à l'époque du Mashiach. Tu prends tout le monde, le roi David. Et à l'époque, il y a Sadekim qui partait. Ok, la réponse est très simple. Une très grande nuance entre la génération du David Améler et la nôtre. L'époque du roi David. Tout un Israël pratiquait la Torah. Un juif qui transgressait le Shabbat, on le lapidait. Ça n'existait pas un truc pareil. Il n'y avait pas. Tout le monde pratiquait la Torah, tout le monde était pur. On était voir les fouilles de la ville de David, d'accord. Il y avait un passage souterrain pour aller jusqu'à la. Pour tremper dans l'eau, d'accord. Les gens étaient en pureté, le mikvé, il y avait une pureté extraordinaire, il y avait la présence divine. Dans cette configuration où tout un Israël sont les sadikim, alors on va prendre l'élite. Les plus grands tzadikim, eux partent en guerre. Et par le mérite de la shrina qui était avec eux, la présence divine, ils gagnent la guerre de façon anormale. Anormale. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, combien de gens sont chômeurs Shabbat? Combien de gens s'assimilent? Allez, 57% on dit en France ou en Amérique? Plus, beaucoup plus, parce qu'on ne sait même pas qui est juif. D'accord? On va dire, alors on va être gentil, 60% c'est plus simple dans les chiffres. 60%. 40%, combien sont chômeurs Shabbat du 40% qui reste? Allez, 20%, ça nous fait de la totale. 20% de 40%, ça nous fait 5%. 5% de la totale. Des chômeurs Shabbat maintenant, combien t'en as qui sont vraiment des tzadikim, des gens bien? Un centième? Allez, on va dire 10%. Ça te fait 0,5%. C'est ça? 5%, 10% de 5%, ça fait 0,5%, 1,5%. 1,5% des peuples d'Israël qui sont des tzadikim. Et pas que le reste est moyen. Le reste s'assimile, va en boîte, fume, gay pride, magouille, forex, etc. Maintenant, nous savons que le peuple d'Israël, c'est ça la leçon que nous avons aux nations. Pourquoi les leçons, ceux qui réfléchissent un peu, ils voient le peuple d'Israël, ils comprennent un truc bizarre, Hitler. Il dit, comment se fait-il que ce peuple tienne depuis 4000 ans? C'est trompé, c'est 3400 ans. Il pose une question super forte. On n'a pas d'armée depuis 2500 ans. On est en exil. Chaque génération, il y a quelqu'un qui se lève, un super solide, un super puissance. Staline, Hitler, d'accord, tous les tsars, Nicolas, etc. Et dans les pays arabes, le nazisme, etc. Se lève un géant de puissance. Dans son programme IDE, il écrit « Extermination du peuple juif ». Et il y va. À la fin, eux disparaissent, nous on est là, sans armée. Jusqu'il y a un peu moins de 70 ans, il n'y avait pas d'armée, rien. On tient. Et même avec l'armée, les chefs de l'armée eux-mêmes te diront, dans la dernière guerre, Bibi Netanyahu il a dit, grâce à Tzahal et grâce à Dieu, etc. Pourquoi il dit ça? Un président d'État qui ne porte pas d'akipa, quand Trump vient avec l'akipa, lui il ne porte pas d'akipa. Il a dit grâce à Dieu. Il voit les miracles, c'est pas normal. Le chef de rassemblement, il a dit, quand il y a un nouveau chef de rassemblement qui a été élu il y a 2-3 ans, il a dit, nous voyons la main de Dieu avec nous sans cesse. On demande merci, on crie pour le futur aussi, qu'il y a encore. Sans cesse. Les gens qui sont dans le métier, ils voient. C'est quoi la question? Ah ouais, l'armée. Alors c'est ça le grand message du peuple juif aux nations. Vous êtes battus, vous avez créé vos empires avec la force physique. Nous, on fonctionne autrement. Il y a une force métaphysique qui est plus forte que la force physique, la spiritualité. C'est comme ça que le peuple d'Israël fonctionne. Hakol, Kol et Yaakov, la voix est celle de Jacob, les mains sont celles d'Esav. Esav, c'est l'Occident, la force militaire. Israël, Yaakov, sa force est dans la voix. Tolaat Yaakov, c'est marqué. Tolaat, le ver de terre, Yaakov. Qu'est-ce qu'il a de si fantastique, un ver de terre qu'on nous loue comme nous, des vers de terre? Dans quoi est sa force, Yichazal, le ver de terre? Dans sa bouche. Lui, il mange la salade. Nous, on prie. Étudie la Torah. C'est ça, la victoire. Donc, s'il n'y a pas de Torah, regarde avant la Shoah, des millions de juifs pratiquants ont quitté la Torah, des millions. Je n'exagère pas dans les chiffres.
C'est pas qu'il n'y a pas de Torah. C'est qu'au moment
Attends. Je vais finir le développement, après tu poses les questions. D'accord? Les grands de Torah ont dit, ce petit pourcentage minuscule sur lequel tient Am Israël, si on dit, vous maintenant, allez à la guerre, il faut d'abord s'entraîner. Pas envoyer comme ça, aller faire comme ça à l'ennemi. Il faut tirer, il faut faire un peu. Donc il faut l'entraînement. L'entraînement, ça prend du temps. Il n'y a plus de Torah. Pendant ce temps-là, il n'y a plus de Torah. Il y a une Gemara terrible. Dans le traité Nedarim, page 32. Incompréhensible. Mais c'est écrit. C'est marqué comme ça. Pourquoi est-ce que la descendance d'Abraham Avin a été punie de devoir vivre 400 ans d'esclavage en Égypte? 400 ans d'esclavage. Souffrance terrible. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait à Abraham Avinu? Répond la Gemara. Parce que lorsque son neveu a été pris prisonnier, kidnappé par les quatre rois, il a pris ses élèves, 317 élèves, les a ramenés, ils sont partis en guerre, ils ont gagné la guerre, ils sont revenus. Ils ont gagné la guerre, ils ont ramené Lot, etc., et tous les soldats, etc. Mais pendant cette guerre-là, 317 élèves ont arrêté d'étudier la Torah. Une nuit, 317 soldats de Dieu, des élèves de l'Yeshivot, arrête d'étudier. La Gemara a dit, eh ben mon cher ami, il faut payer 400 ans d'esclavage en Égypte, tu comprends? Je comprends pas.
Mais avec quelles autres options?
Quelle option? Ton neveu est pris, il est pris, la moindre des choses, enfin la famille fait quelque chose, et puis quoi renéfèche? C'est pas si grave, 317, ok, on fera une nuit en plus, le week-end on va étudier encore un peu plus. Je comprends pas. Mais c'est écrit. Ça veut dire qu'on comprend pas. Ça veut dire qu'on sait pas ce que c'est, la valeur d'étude de Torah. Donc si maintenant tu veux entraîner les soldats pour être soldat, il y aura moins de Torah. Sans parler de ceux qui vont quitter la Torah complètement aussi après. Donc moins de Torah, on est en danger. Soit on était des Suisses, moi je viens de Suisse, d'accord? C'est 600 ans qu'il n'y a pas de guerre en Suisse. Alors tu peux te permettre le luxe de te mettre en danger. Qui va t'attaquer? L'Autriche? L'Italie? La France? C'est pas intéressant. Mais non, on est entouré de gens qui veulent notre fin. Hezbollah, Daesh, Bachar al-Assad, Rouhani, etc. Partout! Dedans, dehors, Abou Mazen, etc., le Hamas. Chaque seconde, on est en situation de danger. Chaque seconde. 150 000 missiles qui disent « Ah, il devient fou, Hezbollah, le Nasrallah, tac !» C'est terrible. On frôle chaque seconde. Comment est-ce qu'on peut prendre le risque qu'il y ait moins de mérite de Torah? Donc les grands Torah disent « Non !» Ceux qui lisent la Torah, qui étudient. Ceux qui n'étudient pas, de toute façon, ils n'étudient pas. Ok, qu'ils aillent maintenant se battre, on a besoin de soldats, c'est clair. Celui qui, moi j'avais mon chavruta quand j'étais à l'Yeshiva. Moi je suis sorti de l'armée, je suis allé à l'Yeshiva. Quand j'étais avec un copain, il s'appelait Meguri Cohen, c'était un Cohen encore, il savait sa famille de Cohen d'où il était. Et il avait ras-le-bol, il ne voulait plus étudier, il voulait quitter l'Yeshiva. Tu vois le Rav Eliashiv? Rav Eliashiv, c'est pas un misro, c'est pas un sioniste non religieux. C'est le noir de noir de noir dans Mea Shaharim. Il n'y a même pas de voiture. Il n'y avait même pas une rue où il habitait, il n'y avait pas une rue. Il fallait aller, il y avait un chemin. On entrait comme ça, on était poussé un chemin comme ça, sa rue où il habitait, comme ça. D'accord? Tu rentres là-bas dans une mansarde, alors avec l'Yeshiva, le plus grand rabbin du monde. Tu es le voir, lui a dit, tu quittes l'Yeshiva, tu vas à l'armée. Le sang de ton prochain n'est pas. Ton sang n'est pas plus rouge que le sang de ton prochain. C'est Gemara qui dit cela. Pourquoi lui irait au casse-pipe et pas toi? Tu lis la Torah, c'est bon, tu protèges Israël, on a besoin de toi, c'est bon. Pas tout le monde à l'armée écrasée en train de se battre. Pour un qui se bat, il y en a 15 derrière, qui ne sont pas combattants. Aujourd'hui, on se bat en high-tech, on se bat en toute chose. C'est pas forcément que tu es en train de te battre ou de mettre en danger physiquement. Donc on a besoin d'une unité spirituelle qui est le critère de victoire de la nation. On gagne grâce à ça. Quand tout le monde est religieux, comme étant du roi David, allez, les tzadikim en premier. T'as un baguette, t'as un bac, t'as un dos. T'as une armée entière de gens qui étudient, qui prient, qui jeûnent. Ok, on avance, c'est bon.
Ah, vous avez tous cette équipe ou...
Hein?
Vous avez tous à cette époque de la vie de la mer, ou il y avait quand même des gens...
Ça dépend quel combat. Il a dit, oui, non. Quand, comment ça s'appelle? Il a réuni 20 000. Tu lui as dit, j'ai pas besoin de 20 000. tu vas tous les faire boire maintenant dans le fleuve. Tout celui qui va poser son genou par terre, tu l'élimines. Il reste 300. Et après 300, compte combien ils étaient, des dizaines de milliers d'ennemis. Et voilà, tous partent en courant. Pourquoi Hachem fait ça? Pourquoi David et Goliath? Goliath, il vient avec son armée, son truc comme ça, énorme. David lui dit, tu viens. David arrive comme ça, avec un bâton, pépère. Goliath lui dit, quoi, je suis un chien, que tu viens comme ça avec des bâtons? Viens que je te dévore maintenant, je te donne ta chair en pâture aux animaux du ciel et de la terre. David lui dit, toi tu viens avec ton épée, avec ton javelot, ta muraille, ton armure, ton bouclier. Moi je viens au nom du Dieu d'Israël. Et moi maintenant je vais te donner ta chair à être dévorée par les oiseaux du ciel et les animaux de la terre. Et tout le monde saura que Dieu n'a pas besoin d'épée, de javelot et de casque. Car à Dieu appartient la guerre. Trouve le mot-là dans le texte. Shmuel 17. C'est une leçon. C'est une leçon. Le Tanakh, c'est pas comme si tu prends David. Prends David. Et il dit à David, suis-je un chien que tu t'avances contre moi avec des bâtons? Il maudit David en invoquant son Dieu. Et le Philistin dit à David, viens ici que je donne ta chair aux oiseaux du ciel, aux animaux des champs. David répondit au Philistin, tu viens à moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi je viens au nom de l'Éternel Sébakot, du Dieu des légions d'Israël que tu insultes. En ce jour, l'Éternel te mettra en mon pouvoir, je t'abattrai, je te couperai la tête, et je livrerai les cadavres de l'armée des Philistins aujourd'hui même aux oiseaux du ciel, aux animaux des champs, afin que toute la terre sache qu'il y a un Dieu pour Israël, et toutes ces multitudes sauront que l'Éternel n'a pas besoin d'épée ni de lance pour donner la victoire, que l'Éternel est le maître de la guerre et vous livrera en notre pouvoir. Et il court, tchac. Pourquoi une pierre? Il a pris 100 pierres. Pourquoi 5? Deux explications de Razal. Une était à la base des thunes. Mauvaise explication. La deuxième par rapport aux 5 livres de la Torah. Moi, j'ai la Torah contre toi. On va voir qui est plus fort. C'est ce que nous montrons au peuple. David et Goliath, quoi? Parce qu'on a une bonne armée. La guerre des 6 jours, parce qu'on était bon à la guerre des 6 jours. Dans les armées, dans les écoles d'études américaines, on n'enseigne pas. Même dans le contrat, c'est lu un article dernièrement, ils ont raconté cette histoire-là. Un type juif assimilé va à l'armée américaine, devient officier. Dans l'école des officiers, on lui parle toutes les guerres, on étudie les guerres, etc., les combats. Jamais on parle des guerres des 6 jours. Il va voir un jour le général là qui donne le cours. Pourquoi vous parlez pas des guerres des 6 jours? La guerre des 6 jours, monsieur, il n'y a rien à apprendre. C'est un miracle de A à Z. C'est pas de l'armée, c'est pas de la guerre, c'est pas de la stratégie. Un miracle de A à Z. Ça lui a fait tilt, il a fait choix. Il revient de l'armée chez la maison avec une kippa sur la tête. Et c'est vrai. Donc, le David, c'est quoi sa force contre Goliath? La spiritualité. Alors, quand tout le monde est spirituel, ben, ça très bientôt, alors on ira tous en guerre. Et aucun problème, avec plaisir. On va prier, on va jeûner, on va gagner la guerre. Même qu'on ne sera peut-être pas très fort physiquement. C'est ça ce que nous sommes. Maintenant, allez dire non, nous on doit ressembler aussi à Essav au Goïm. Enlevez les gens des yeshivot, mettez-les à l'armée, comme ça on va mieux gagner. Ch'touyot, bêtise. Même les grands. Rabin, c'est un gauchiste. Il a dit on a une Kabbalah, on a une tradition, les étudiants de Torah étudient la Torah. Lui, où est le rapport avec la choucroute? Il a compris. Rabin, il a dit ça, Kabbalah, bien sûr.
Alors pourquoi
un bout
de
le Rav Kook. À l'époque, l'armée n'existait pas. Ok, le Rav Kook. Le Rav Kook, on a pris sa pensée et on a fait tout le contraire. Il ne faut pas qu'il était pour l'armée. En tout cas, les grands de la Torah ne sont pas pour. Nous, on suit les grands de la Torah de notre génération. Tous les grands de la génération, tous, sans aucune exception, disent... celui qui peut aller en yeshiva, il ne va pas à l'armée, il va à la yeshiva. Pas Hesder, les deux à la fois. Que yeshiva. Parce qu'on est en situation de danger. On ne peut pas se payer le luxe maintenant qu'il y ait moins de soldats au front. Les soldats au front, c'est la Gemara avec l'étude de Torah. C'est ça le critère de victoire de la guerre. Je t'écoute maintenant.
Bon, je vous ai répondu, mais... C'est-à-dire qu'on déduit de là que quoi? Qu'il faut quand même une puissance physique.
Non, là
il faut pas l'armée. Le mec, il ne sait pas étudier.
Habibi, t'en as! T'as 99 qui vont à l'armée!
Ils ne forment qu'un alors!
Hein?
Ils ne forment qu'un! Pourquoi? Parce qu'ils disent qu'il faut tous sortir de l'armée, il faut étudier.
Regarde. Sur la Védiachiv, qui est noir de noir, il dit à quelqu'un tu vas à l'armée, il ne crache pas sur l'armée. Il dit, quand tu as maintenant, tu es un général maintenant, tu te bats, tu n'as pas des millions de soldats. Ce que tu peux mettre dans une unité d'élite, donc tu es obligé de faire d'utiliser chacun pour le meilleur rendement possible. Ce qui peut étudier, c'est ça le meilleur rendement possible. Ce qui ne peut pas, ok, qu'il aille à l'armée physique. On ne crache pas sur le physique. Comme dans une unité, maintenant tu auras des soldats qui ont un balourd de 150 kilos. On va lui cracher dessus. Non, qu'il soit cuistot, très bien. Chacun son job, il n'y a aucun problème. Chacun doit aider dans l'effort de guerre de tous. Quelqu'un qui peut aller à Shiva et va à l'armée à la place de cela, il fait du mal au peuple d'Israël par manque, comment on appelle cela, nous, personne en danger, non, assistance, personne en danger. On est en danger. C'est un luxe d'aller à l'armée. C'est un luxe parce que maintenant, tu nous mets en danger. Va étudier. C'est dur. La Shiva, c'est bien plus dur que l'armée. Bien plus dur.
Ah, c'est pas évident.
Ça va, Habibi. Moi, je te dis que c'est bien plus dur. C'est beaucoup plus dur. Toujours t'as envie de Torah et d'étudier, étudier, encore étudier, t'en as ras-le-bol, encore étudier, prier, étudier, être un cadeau. Ça va, mais tu sais, c'est génial. Tu sens que tu fais, tu prends l'arme et tu vas, et tu lis, pas là. C'est génial, puis tu rentres après, t'es quelqu'un, allez, arrête, on l'a fait. Hein. Beaucoup plus facile. Beaucoup plus facile. Quand c'est la guerre, ça fait plus peur. C'est vrai. Mais à la guerre, on est protégé. Tous ceux qui ont fait la guerre, sont pas trop loin, d'accord, ils ont senti des miracles. J'ai fait un cours à l'époque, il y a 25 ans, j'ai fait un séminaire, il y avait un jeune homme qui venait avec sa femme, il avait deux enfants. Putain, je vois une fois tous les 3-4 ans, il a fait son alia. Puis là, il vient me voir pendant la guerre, il me fait le bras pour mon fils. Pourquoi? Ton fils est grand, il est dans quelle arme? Il n'est pas là. En parlant comme ça, j'ai compris, il n'a pas voulu me dire, il m'a dit, enfin j'ai compris, il était dans sa Hertmatkal. Hertmatkal, c'est l'unité commando la plus... travaille au scalpel. Et c'était à Gaza, il rentrait à Gaza. Après la guerre, je l'appelle, alors comment c'était? Il dit, des miracles extraordinaires. Je lui dis à ton fils, il peut venir ici nous parler. Il dit, ok, il va demander ce commando, comment donner? Rien. Je lui dis, on floute, pas floute, pas audio, pas vidéo, rien. Alors, il a raconté à son père, et son père venu et raconter les miracles qu'il a vécu. Mais les miracles qu'il a vécu. Mais des miracles. Je raconte une histoire. Je racontais ça à l'époque. Ils ont reçu l'ordre de tuer quelques chefs du Hamas. Ils ont, dans une villa comme ça à Gaza, ils ont reçu tac, ils savent où c'est. Ils ont dit, il a dit comme ça texto, des assassins qui mangent, qui tuent des personnes comme ils mangent des olives. Ils repèrent la maison. Ils mettent une charge, toutes les entrées, c'est piégé. Donc on part par l'entrée, ils mettent une charge explosive sur le mur, boum, ça explose, ils attendent que la fumée parte, et ils rentrent dedans. C'est très, très dangereux maintenant, les gens sont dedans, ils attendent. Dès que tu rentres, on te... Ils rentrent, ils voient tout à coup les 4-5 soldats du Hamas, les armes par terre, en train d'hurler, en train de pleurer. Ils hurlent, ils pleurent, ils hurlent, ils pleurent. Ils attachent. Ils sont quatre. Ils fonctionnent par équipe de quatre. Ils amènent du renfort. Un truc qui vient, qui traduit en arabe. Ils leur disent Tmania, 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 et donc Tmania. Je ne comprends pas que Tmania, 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 c'est dire 8. Explique que vous êtes rentrés 8. On n'était que 4, vous êtes rentrés 8 soldats. Habillés en blanc, avec des épées et des ailes. On a été terrorisés.
Ils ont dit ça en arabe, les...
Les arabes. C'est pas des histoires de contes et légendes de Blanche-Neige. C'est ici, on parle des hommes les plus sérieux qu'il y a dans l'État d'Israël. C'est Hertmatkal, des gens super, super réglo. Alors, un parmi tous les miracles qu'il a vécu. Un. Alors, qui fait la guerre?
Ça représente qui, ça? Les anges blancs?
Non, les anges, génial. Tu crois qu'ils ont... Qu'est-ce qu'ils font, les anges? À la guerre de Kippour. Kalan et ils étaient 20 tanks contre 2000 tanks syriens. Ils ont repoussé. On a attrapé le général syrien. Pourquoi tu n'as pas continué? Tu t'avais allé, il a dit, vous croyez que c'est simple de continuer quand tu as un ange devant toi qui te dit, halt, arrête-toi. Et comme ça, sans cesse. Le pilote d'avion qui est dans un piège de missile où il voit une barbe devant lui, un truc comme ça, un barbe, il dit, va là, comme ça qu'il s'en sort. Mais comme ça sans cesse, des miracles sans cesse.
Aussi.
Je raconte pas mes miracles à moi, vous allez commencer à...
Allez,
moi j'étais idiot, moi, c'est tout. Bah, au Hachem, que Dieu m'a sauvé, grâce à vous. Il a vu que peut-être un jour je pourrais faire un peu de kirou. J'étais crétin comme tout, je me suis mis en danger, bah, au Hachem, j'ai été sauvé. Voilà, c'est tout. Donc c'est évident, voilà, c'est tout. Pas besoin. Il y a une histoire extraordinaire. Elle était, il y a plus d'un siècle, en Russie. L'empereur réunit son équipe de travail. Je dis, je veux mettre dehors tous les juifs. Ou bien les assimiler, on va leur faire maintenant des décrets qu'ils doivent prendre, ou se convertir, ou quitter plus le droit de la Torah. Je ne sais plus, que c'est un truc terrible, je ne me souviens plus des détails. Commence à travailler, je reviens dans quelques heures, on va voir où ça en est. Il commence à travailler toute la nuit, vers 2h du matin, tout à coup, les trompettes, le roi arrive. Il commence à vous garder à vous, trac, le roi arrive, montrez-moi. Et mon déjà Alexis, je travaille ça. C'est des pétisses, ça. Il déchire tout, jette au feu. Ça vaut rien, allez, arrêtez, rentrez chez vous. Bon, vous dormez ici la nuit, terminé. On arrête tout, c'est des bêtises vos trucs. Et il part. Le matin, les trompettes, trac, le roi arrive. Alors, il arrive, il voit tout le monde en train de dormir. Mais ça va pas? Mais qu'est-ce que c'est ça? Mais sa majesté, vous êtes venu à 2h du matin? Moi? Mais j'avais d'avis. On demande des gardes. Mais où vous êtes venu? Sa majesté, on a fait les trompettes, tout ça, vous êtes rentré. Il a compris qu'il ne pouvait pas se battre. Contre Dieu d'Israël. Qui a amené un roi déguisé. Enfin, il a amené, je ne sais pas qui l'a amené. Il a amené un avis déguisé en tsar Nicolas. On vit par miracle, de A à Z. Maintenant, comment on fait pour activer les miracles? Comment on fait pour qu'il y ait plus de miracles? Alors, il y a une seule combine qui s'appelle. Vachen, Hachem, Shochen, Betzion. C'est marqué, allez, je te lis. La Bible sous le... Comment ne pas utiliser la Bible quand on l'a sous la main? Ta petite question, tu vois ce que ça fait comme cours? Yoël, tout Yoël parle de la fin des temps. Très bientôt, messieurs. Ça barde, hein. Ce qui se passe au nord, c'est pas du tout simple. Hein. Faut faire... commencer à prier, messieurs. Priez beaucoup plus, surtout va. Qu'on voit que ça s'excite, vous prenez ceux qui partent en France, qui prennent le premier avion qui revient en Israël. Ce sera trop tard après.
Regarde, vous êtes bien en France, qui applique bien la Torah, ça va, il sera quelque chose.
Tu m'énerves là, je te dis, je voulais faire la fin, mais tu me fais voir ce qui est marqué. Ils sont déjà lus dernièrement. Alors, je te lis pour toi, en parenthèse, Yoël 3. Alors, quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Car sous le mont Sion et dans Jérusalem, le salut sera assuré, ainsi que l'a dit l'Éternel, comme il le sera parmi les survivants à ceux qui lira le Seigneur. Ça ne veut rien dire. Les commentateurs disent, il y aura deux sortes de sauvetage. En Israël, tout le monde sera sauvé. À l'étranger, ceux qui mériteront.
C'est quoi
sauvé? Sauvé. Physiquement. Sauvé. Bon, je ne sais pas. En tout cas, ceux qui méritent...
Même si on est au Kotel, on sera pas protégé. Dans un cours, vous avez dit ça. Si on est au Kotel, quand il y aura Gog et Magog, on ne sera pas protégé. Ça dépend de nos mérites ou de quelque chose comme ça.
J'imagine qu'il faut quelques mérites, mais en deux mots, ce que tu dis ici, c'est que là-bas, ce sera beaucoup plus dur à l'étranger. Allez, je sais pas, je peux raconter ça. Je veux pas. Petite histoire à vous raconter, peut-être, mais je vais avoir encore plus de détails. Des détails, je vous dirai bientôt. Alors, à la fin de Yoël, non, pour lui répondre maintenant, comment on fait maintenant pour activer les miracles? C'était ma question. L'Égypte sera une solitude, Édom un désert délaissé en raison de la violence exercée sur les fils de Juda dont ils ont versé le sang innocent dans leur pays. Dieu, à la fin, il règle les comptes. Tous nos ennemis, ce n'est pas forcément l'Égypte, ni, comme ça dit le commentateur, ni forcément Édom, tous nos ennemis, Dieu règle les comptes. Juda, au contraire, sera habité jamais à jamais, Jérusalem, de génération en génération. Je vengerai leur sang que je n'avais pas encore vengé. Et moi, Éternel, je résiderai à Sion. Fin de Yoël. Yoël. Les commentateurs disent, c'est quoi le rapport entre début du verset et fin du verset? Dieu dit, je vengerai leur sang que je n'avais pas encore vengé. Dieu règle les comptes à la fin des temps. Et moi, Éternel, je résiderai à Sion. Où est le rapport? Ils disent comme ça. Lorsque les ennemis vont voir que Dieu maintenant commence à régler les comptes, ils vont dire, bon, alors nous maintenant, on est cuit. Pas tout seul. Ils crèveront avec nous. Qu'il coûte que coûte, on ne laissera pas les Juifs survivre. On crève, ils crèvent avec nous. Ils vont tout faire pour nous descendre. Alors Dieu dit, je réside à Sion. Pourrait pas. Il y aura Kippat Barzel, mais pas de fer, Kippat Or. Il y aura un dôme de lumière, la Shrina qui réside à Sion. Pourquoi maintenant le mal se bat au plus fort Avec quelle arme? Des mots sexuels, gay pride, les appareils, la pornographie, les pubs, les mini-jupes. Pourquoi? Il y a un seul verset dans la Torah qui te dit, tu feras ce péché, je pars. Lo ire becha ervat davar, ne verra pas en toi une nudité, vesar macharecha, il te quittera. Aucune autre, au péché c'est marqué comme ça. Tu fais des péchés, ok, Dieu reste avec nous. Il y a un péché, Dieu il fuit. Quand Dieu il fuit, qu'est-ce qui se passe? T'es fini, ta protection elle est partie mon cher ami, t'es comme les autres, tu te fais dévorer. Une brebis parmi 70 loups, quelle est sa chance de survie? Zéro. Et on survit parce que Dieu est avec nous. Alors le mal qui a compris comment ça fonctionne, il ne peut pas nous se battre contre nous, on n'arrive pas, il tire, ça ne marche pas. Et ce soldat de Matkal, il a dit, c'est extraordinaire, on se battait, la guerre de Gaza, on est rentré en rampant, on est rentré dans le noir comme ça. On tire, ta, 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 hop, avant. Et on voit qu'on tire, on les tue. Ils tirent, ils nous ratent. On tire, on les tue. Ou ils fuient, ils tirent, ils nous ratent. Au bout d'un moment, on n'allait plus coucher, on allait accroupi, on allait debout. On voyait les balles, ta 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 ta, on tire, on les tue, nous ils tournent dessus, rien du tout. Un autre soldat est venu me voir aussi, il m'a raconté, on était juste les paras, ils étaient 300 soldats, ils allaient comme ça, en ligne. Quand on leur tire dessus, tout le monde se couche. Et ils voient les balles, ta 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 ta, au bout de moi, le chef il dit, allez, on avance, tout le monde devait. Il lève, et il voit les balles, en pleine nuit, hein, on voit les balles comme ça, passe entre eux, tac tac tac, t'as 300 personnes, tu tires, ta 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 ta, tu vas bien en avoir un, pas un mort, pas un blessé. Pas un. On avance. Allez, on allait comme ça, vous savez, comme c'est dans les films de, je sais pas moi, de science-fiction, King Kong ou Goldorak. Tout le monde tire, ta-ta-ta-ta-ta, tout là, lui, pam, 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 pam. Miraculeux de A à Z. Comment on fait? La Shrina est avec nous, la présence divine. Donc aujourd'hui, les ennemis d'Israël, c'est-à-dire le côté négatif qui veut nous casser, il envoie quoi? Les filles, les homos, les pornos, les appareils. C'est-à-dire que sur Internet, rien que tu vas prendre un billet d'avion, des gens te montrent des bonnes femmes, etc. Tout ça, pourquoi? Pour t'impurifier, pour que la Shrina te quitte. Et tu deviens vulnérable. Et nous, on va faire le contraire, se sanctifier pour amener la Shrina. Et moi, je résiderai, Vani, Shochen, Besson, je résiderai à Sion. Là est la bataille. Donc maintenant, tu es le grand Torah, tu veux sauver Israël, qu'est-ce que tu fais? Allez-y, tous à l'armée, allez les garçons et filles, on sera une bonne armée. Ou bien au contraire, tu dis le plus de kdoucha possible, de sainteté, c'est ça qui nous sauve. C'est comme ça qu'on fonctionne. Il faut se réveiller. Après 3500 ans d'histoire, on n'a pas encore compris.
Mais concrètement, c'est quoi qui va activer le miracle? On s'éloigne de tout ça, mais c'est.
Concrètement, quand tu te casses la tête pour comprendre un rachi et un tosfot, il n'y a rien de plus grand au monde. Ça amène la kdoucha mamash. Dieu dit partout, tu rappelleras mon nom, je viendrai. Partout. Quelqu'un étudie même seul. C'est mieux en deux, c'est mieux à dix, c'est mieux beaucoup qui étudient la Torah. Mais même un, la Shrina vient. Et la Kedusha, faire attention de s'éloigner de tout ce qui est sexuel.
David, il dit, le Dieu d'Israël est avec moi, et il jette des pierres quand même.
Une pierre? Oui, je suis d'accord, une pierre.
Ah ouais, je t'avais dit.
Oui, je t'adoute, on n'a pas dit non.
Alors, t'as quatre... Alors,
je répète le même rabbi que je dis il y a quelques secondes. Tu as 99% des jeunes qui vont à l'armée. Tu as 1% qui va à la yeshiva. Qu'est-ce qu'un bon maître? 90%. Non, par rapport au pourcentage. Ouais. Allez, il y a beaucoup moins. Il y a 70% qui vont, il y a 30% qui ne vont même pas à l'armée, parmi les non-religieux. Mais il y a 2% qui vont à l'Eshiva. Eux, il faut les attraper. Parce que comment ça se fait que l'armée a dit on n'a pas besoin des religieux? Mais l'État, là-bas, les gauchistes, ils veulent, parce qu'ils comprennent que c'est le seul moyen de rendre les religieux non-religieux. On les met 3 ans là-bas, donc l'armée, ils vont sortir capoute. D'accord? Bon, au Hachem, ils n'arrivent pas trop. Quoi qu'il en soit, le pourcentage est de l'ordre de 2%, 98% on va dire. Combien de gens vont à l'Eshiva? 2% de l'État, grand maximum. Du peuple juif, beaucoup moins. Mais l'État d'Israël, 2%, grand maximum. Maintenant, toi maintenant, tu es le chef de l'armée, tu es le chef du pays. Tu sais comment on fonctionne, qu'est-ce que tu fais? Donc, prends les 2% aussi qu'ils aillent, allez, qu'ils soient aussi des paras, des tankistes. Tu as tué un Israël. Si tu es intelligent, tu dis, écoutez, pourquoi 98% ils font aucune spiritualité? Allez, on leur fait aussi un petit séminaire. 3 semaines d'entraînement, 1 semaine de yeshiva. C'est ça qu'il faut faire. Là, on va gagner. Tu amènes l'armée, tu leur fais 3 semaines d'entraînement, 1 semaine de yeshiva, comme ça, toute l'armée, machin, revient dans 6 mois. Maximum 6 mois, on est après tout déjà le temps de construire, et tout, Gog ou Magog, et terminé. Aucun doute là-dessus. Aucun doute, je suis prêt. Contente le coup, tu vois. On gagne à tous les coups.
Alors,
Chassé shalom. Baruch Adonai, Amen ve Amen.